Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 7 décembre 1914, la bataille navale des Falklands.
C'est maintenant.
Le 2 novembre 1914, au large des côtes chiliennes, l'escadre de l'amiral allemand Maximilian von Spee coule le cuirassé anglais Good Hope et le croiseur Monmouth. Le désastre de Coronel, un port situé non loin de Concepción au Chili, fait 1200 victimes britanniques. Un mois plus tard, le 7 décembre, les Anglais vengent cette défaite par la bataille des Falklands. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, ne peut tolérer l'affront infligé par la marine allemande. Il nomme l'amiral Doventon Sturdee, commandant d'une flotte destinée à l'Amérique du Sud. Elle comprend les croiseurs Invincible et Inflexible, tout juste sortis de réparation à Davenport. Ces deux bâtiments de guerre de 17 250 tonnes sont armés de 8 canons de 305 mm et de 16 canons de 102 mm. Leur vitesse est de 26 nœuds. Seule leur protection cuirassée est faible. L'escadre de l'amiral Sturdee est également composée du cuirassé Carnarvon, datant de 1903, et des deux croiseurs Kent et Cornwall. Au matin du 7 décembre 1914, l'amiral von Spee approche des îles Falkland. Il désigne deux navires, le Gneisenau et le Nuremberg, pour préparer un débarquement sur la pointe de Pembroke à l'entrée de Port Stanley. Leur premier objectif est la destruction des installations de la TSF. Il est 9h20 lorsque les Allemands aperçoivent un croiseur qui appareille le cap vers la sortie du port. Le Gneisenau et le Nuremberg décide de lui régler son compte avant que les autres bâtiments anglais n'entrent en ligne. À 9h25, au moment où le Gneisenau s'apprête à ouvrir le feu, deux gros projectiles tombent à 800 yards, soit approximativement 730 mètres en arrière. Ils soulèvent des gerbes d'eau d'environ 45 mètres de hauteur. Deuxième salve, cette fois les projectiles anglais tombe plus près encore. Curieusement, l'un d'eux ricoche sur l'eau et passe au-dessus de la plage en arrière du Gneisenau. Ce qui impressionne l'équipage, c'est le croiseur Canopus, chargé de la protection des Falklands, qui a ouvert le feu. La veille, sont arrivés en rade de Port Stanley les croiseurs Invincible, Inflexible, Glasgow, Kent, Bristol, Carnarvon, Cornwall, et le croiseur auxiliaire Macedonia. Humphrey Packington, futur Lord Hampton, alors enseigne de vaisseau à bord du Carnarvon, relate la bataille. « Nous sortions d'un trou dans la terre, comme des guêpes de leur nid. La flotte était à la mer et la chasse était ouverte. Et c'était vraiment un beau matin de chasse. À pleine vitesse, nous marchions labourant la mer bleue. À 13h30, les croiseurs légers ennemis se séparèrent des deux croiseurs lourds et filèrent vers le sud. Von Spee avait décidé de se sacrifier pour protéger leur fuite. Le Glasgow, le Kent et le Cornwall se lancèrent à leur poursuite. Bientôt, on ne vit à l'horizon que le haut de leur mât. Maintenant, le Scharnhorst et le Gneisenau avaient ouvert le feu et leurs canons battaient l'eau avec fureur autour de nos croiseurs de bataille. Sturdee s'éloigna pour augmenter la distance et garder ainsi l'avantage de son artillerie lourde. Nos croiseurs de bataille entrèrent en action avec leurs canons de 305 mm. Le Scharnhorst avait disparu à jamais de la surface des flots à 16h20, entraînant dans la mort l'amiral von Spee et la quasi totalité de ses officiers et de son équipage. Le Gneisenau coula à 18h02. Les croiseurs allemands en fuite s'égayaient. Le Leipzig et le Nuremberg restaient franchement en arrière. Le Dresden loin devant. le Cornwall se lançait à la poursuite du Leipzig qui voyait rapidement s'évanouir toute chance de s'échapper. Le combat s'engagea d'abord à une grande distance. L'Allemand ripostait courageusement aux salves de projectiles anglais qui, à partir de 16h15, éclatèrent à son bord. Le Cornwall était lui-même durement touché, mais la supériorité anglaise était écrasante. Pendant deux longues heures, les projectiles anglais ravagèrent le pont, les superstructures, les cheminées du Leipzig. À 21h22, après un combat qui avait duré plus de 5 heures, dont les deux dernières avaient été atroces, le Leipzig en flammes coulait, pavillon haut. La température de l'eau était de 5 degrés. Quoique les Anglais, le combat terminé, eussent mis quelques canots à la mer, il n'y eut que peu de survivants. Le Nuremberg, poursuivi par le Kent, engagea un combat singulier avec le croiseur anglais. Sous le tir précis des canons du Kent, le Nuremberg ne fut bientôt qu'une masse qui brûlait. À 19h25, le Nuremberg s'inclinait doucement. On vit alors à la lueur des incendies un groupe de marins allemands debout sur le flanc déchiré du Nuremberg qui brandissait fièrement le pavillon de guerre de la marine allemande. Et le Nuremberg disparut. Un seul croiseur allemand, le Dresden, put s'échapper. Il alla se réfugier dans le labyrinthe des fjords désolés qui vont du Cap Horn à la sortie du détroit de Magellan sur le Pacifique. Les Allemands avaient perdu 2260 hommes au Falkland, dont l'amiral von Spee et ses deux fils. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. Nous écoutons Jean Gabin, nous connaissons l'acteur, moins le chanteur. C'était en 1974, 2 ans avant sa mort. Il chantait « Maintenant, je sais ».
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, il s'agit de quatre livres aujourd'hui et même cinq pour être très précis. Nous commençons par Charles Baudelaire, alors pas le poète mais le critique d'art, le peintre de la vie moderne. C'est publié dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Dans son essai publié en feuilleton en 1863, qui passe pour l'acte de naissance de la modernité, Charles Baudelaire fait l'éloge de l'artifice, du maquillage et des parures de la femme élégante, de la ville, du frivole et de l'horreur. Il développe une théorie du dandy. La modernité, c'est le transitoire, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable, écrit-il. Les enjeux du goût sont politiques et métaphysiques, c'est ce qu'il rappelle en tant que critique d'art, arpentant les salons. Le peintre de la vie moderne, c'est signé Charles Baudelaire, c'est publié dans la collection Folio aux éditions Gallimard, et c'est un autre regard sur l'œuvre de Baudelaire. 10 années d'exil de Germaine de Staël aux éditions Gallimard, toujours dans la collection Folio classique pour être précis. À la source de cet ouvrage, un sentiment d'injustice et d'impuissance. Alors que Germaine de Staël ose exprimer ses désaccords avec Bonaparte, l'empereur décide de la condamner à l'exil. En 1803, il s'agit encore du premier consul, Napoléon Bonaparte. La femme de lettres choisit alors de s'approprier sa punition. Pendant son exil, elle visite l'Europe, s'inspire d'autres cultures et rencontre des personnalités exceptionnelles. Et elle écrit. Retranscrivant ses impressions et ses réflexions, elle prend soin de faire une reconstitution précise des événements qu'elle traverse ou de ceux dont elle est témoin. 10 années d'exil n'est alors plus seulement un simple récit autobiographique, c'est un véritable témoignage sur une époque. 10 années d'exil de Germaine de Staël, c'est dans la collection Folio Classique aux éditions Gallimard. Toujours chez Gallimard, dans la collection Folio, Mort de l'Inquisiteur de Leonardo Sciascia. Nous voici émergés dans un épisode méconnu de la Sicile du XVIIe siècle. Diego La Mattina, religieux ayant résisté aux violences inquisitrices, est un prisonnier enchaîné qui arrive néanmoins à assommer dans un couloir du palais l'inquisiteur venu l'interroger. Il est jugé, torturé et brûlé vif. Mais peu à peu, son visage devient celui de la liberté et celui de l'inquisiteur, de l'oppression. L'auteur va se livrer à une enquête minutieuse à travers les textes et les témoignages de l'époque. Et puis pour terminer, deux biographies, d'abord celle de James Baldwin, c'est signé Yannick Bleck, toujours dans la collection Folio chez Gallimard. Tout ce à quoi l'on fait face ne peut pas être changé, mais rien ne peut changer tant qu'on n'y fait pas face. Écrivain américain engagé et fervent acteur du mouvement des droits civiques, James Baldwin, qui est né en 1924 et mort en 1987, est un des porte-parole de la communauté noire. Jimmy passe son enfance dans les rues froides et miséreuses de Harlem. Confronté à la violence et au racisme dès son plus jeune âge, il comprend alors que son talent pour manier les mots est un don à mettre au service de la lutte contre les injustices raciales et sociales. À travers ses essais, ses romans et son engagement politique, l'enfant de Harlem incarne le pont souhaité entre l'Amérique blanche et l'Amérique noire. Déchiré entre le besoin de se préserver des violences d'un pays en pleine ségrégation et celui de témoigner de ses horreurs, il passera sa vie entre la France et les États-Unis. Sa pensée résonne toujours dans le monde d'aujourd'hui, dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. James Baldwin s'est signé par Yannick Bleck et s'est publié dans la collection Folio, Folio Biographie, aux éditions Gallimard. Et nous terminons par un sportif, Jesse Owens. C'est une biographie d'Alain Foy, toujours chez Gallimard dans la collection Folio. Ce n'est pas uniquement parce qu'il est l'homme ayant défié Adolf Hitler ou le meilleur sprinteur de l'entre-deux-guerres que le nom de Jesse Owens, né en 1913 et mort en 1980, résonne encore aujourd'hui. Tout en étant un champion hors norme, il demeure homme parmi les hommes, citoyen actif, commettant des erreurs tout en sachant les reconnaître, s'affirmant américain en premier, noir en second, dans une Amérique fracturée par la question raciale. Il incarne en réalité le symbole d'un citoyen du monde se battant sans relâche pour sa liberté. Le quadruple médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1936, arraché à sa modeste condition de petit-fils d'esclave grâce à ses exploits physiques et à son travail acharné, est devenu l'emblème du sport comme espace possible de fraternité, mais aussi de la lutte contre toute forme de racisme. À travers cet athlète d'exception, c'est tout un pan de l'histoire des Jeux Olympiques modernes qui se lit. Jesse Owens, c'est une biographie d'Alain Foy, publiée dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Nous nous séparons en chanson avec Jean Gabin. Jean Gabin, le chanteur, en duo avec Mistinguette, dont il était l'amant à l'époque. C'était en 1928. Nous écoutons La Java de Doudoune.
Faux délicates en soi, des perloutes, ma chère. Ils mangent comme des rois, sans y mettre les doigts, leur moule marinière.
Oh, ce qu'ils font les magnes, pour boire du champagne, mais pour nous vraiment, n'en faut pas tant. Pour être heureux, pas besoin d'argent, pour dire on, nous à deux on fait la fête. Bien enlacé et si gentiment pour danser, on s'en va au bal. Des petites saucisses qu'on mange à belles dents, ça vaut bien le foie gras et les écrevisses. Quand on se bécote, si ça dure longtemps, c'est qu'on s'aime de vrai, nous c'est pas du vice. Pas besoin d'argent, y en a d'autres pour qui le bonheur, c'est Deauville, Monte-Carlo, où s'appuyer sur le cœur des actrices, oh tu parles.
Quand ils se quittent, c'est sans chagrin, sans haine ou bien sans larmes. Se disputer en plein, à coups de traversin, c'est encore du charme.
Mais eux d'un ton sec, disent qu'il y a v'là un chèque, tandis que nous vraiment, n'en faut pas tant. Jamais de boniment, nos baisers, jamais on ne les regrette. Et comme nos cœurs, y a quelque chose dedans. On a tout, pas besoin d'argent. quelque chose dedans.